Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission de la PNIX. Alors aujourd'hui on va vous parler du conflit entre la Grèce et la Turquie en mer Égée. Donc comme vous le savez sûrement déjà, le 10 août 2020, la Turquie a déployé le navire Horus Reis dans le but d'effectuer des recherches à propos des ressources de gaz marin. Il se trouve qu'en fait elle a déployé ce navire au sud de l'île de Castelorizo, qui est en fait reconnue comme une île grecque. Si ce navire a regagné les côtes turques au mois de septembre, il a été à nouveau déployé le 12 octobre et il était supposé être déployé jusqu'au 20. Pour l'instant, on attend encore des nouvelles. Mais alors aujourd'hui, on souhaite vous expliquer un petit peu plus d'où vient ce conflit entre la Grèce et la Turquie. Et pour ce faire, il faut d'abord revenir sur la situation conflictuelle qui se pose entre ces deux pays. Donc ça, ce sera le rôle d'Ulysse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chronique ?
Oui, bonjour à tous. Moi, je vais expliquer en fait pourquoi les tensions entre la Grèce et la Turquie, elles sont intrinsèques à leur histoire.
Ok. Mais dans ce conflit, on va pouvoir identifier plusieurs sujets un peu principaux. Enfin, on va d'ailleurs pouvoir identifier deux sujets assez principaux. Et ça, ce sera le rôle de Camille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chronique ?
Oui, bonjour à tous. Moi, je vais parler plutôt des conflits entre la Grèce et la Turquie sur le plan migratoire et sur le plan économique au sujet des hydrocarbures en mer Égée.
Eh bien, merci Camille. Ce conflit, en fait, il concerne du coup pas uniquement finalement la Grèce et la Turquie, il concerne aussi les relations internationales en général. Et ça, ce sera le sujet dont va traiter Rodrigo. Rodrigo, tu peux nous en parler ?
Exactement. Donc je vais traiter l'influence des relations internationales dans le déroulement de ce bras de fer entre la Grèce et la Turquie.
Eh bien, merci. On a hâte. Donc jusque-là, on peut avoir l'impression que ce conflit est insoluble. Mais est-ce qu'il reste des potentialités de réconciliation entre ces États ?
Bah, c'est exactement ça, Sandrine. Justement, moi, je vais traiter de l'aspect qui vise à montrer des possibilités de réconciliation, un après, une potentielle paix ou un espoir pour celle-ci.
Ok, on verra ça et on espère avec toi. Alors, sans transition. Enfin, je vais laisser Ulysse nous expliquer finalement comment on en est arrivé là.
Oui, parce qu'il faut savoir que les îles de Castelorizo, elles sont revendiquées de part et d'autre par la Turquie et la Grèce. Mais pour comprendre un peu comment est-ce qu'on arrive à une telle montée des tensions entre les deux pays, il faut se replonger un peu dans leur histoire et dans leurs relations. Tout d'abord, il est important de noter que l'antagonisme entre la Grèce et la Turquie dure depuis le début de l'État grec au sens moderne du terme. En faisant le choix d'autoproclamer son indépendance en 1821, la Grèce affirme sa volonté de se détacher de l'Empire ottoman, ce qui mènera une dizaine d'années de guerres sanguinaires entre les peuples. La finalité est que l'Empire ottoman va se voir ôter une partie de son territoire, la Grèce actuelle et surtout les îles en mer Égée. Les conditions de la naissance de l'État grec expliquent alors pourquoi Erdogan se place comme la personne qui souhaite reconquérir les territoires perdus par nostalgie du puissant Empire ottoman.
Donc en fait, on peut dire que finalement, la Turquie, en tant que successeur de l'Empire ottoman, elle se sent lésée en fait de la perte d'un territoire qui est quand même utile pour elle.
Oui, exactement, puisqu'il faut savoir qu'il y a cette nostalgie qui existe en Turquie de la puissance d'antan de l'Empire ottoman. Mais depuis, les temps ont changé et aujourd'hui, on a deux gouvernants qui jouent la carte de la fermeté sur les questions des îles en mer Égée. On a d'abord la Turquie. L'actuel président turc Recep Tayyip Erdogan est un acteur majeur de la géopolitique internationale et globale. C'est lui qui a l'initiative de l'envoi du bateau en mer Égée. Étant un ténor de la scène politique turque, Erdogan doit agir en vrai stratège pour rester dans la course, sachant qu'il se trouve en grande difficulté électorale. Économie trop fragile, perd d'Istanbul au municipal, son parti qui le tourne le dos. Et pour ce faire, Erdogan va user de deux moyens, le nationalisme et l'islamisation du régime. Créer un conflit international, c'est un bon moyen pour souder la population derrière son chef d'État. Poutine s'en était par exemple servi dans les années 2000 contre la Tchétchénie pour affirmer sa légitimité.
Même si c'est pas l'unique cause du conflit tchétchène,
oui,
on le précise tout de même, effectivement ça recouvrait effectivement une des raisons patentes.
Et en l'occurrence, la cible parfaite pour raviver la fibre nationaliste de son électorat, ce sont bien sûr les îles grecques à proximité du territoire turc. En effet, il paraît logique dans un discours populiste de revendiquer une île à quelques kilomètres de ses frontières en niant les conventions internationales à ce propos. Alors que du côté turc, on a un dirigeant qui concentre de plus en plus de pouvoir entre ses mains, en Grèce, nous avons plutôt le modèle d'une démocratie libérale avec des personnalités politiques moins virulentes, avec des postures plus diplomatiques. L'actuel Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis suit en réalité la politique de ses prédécesseurs sur la question des îles grecques, c'est-à-dire fermeté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main qui tremble s'ils se voient dans l'obligation d'employer des forces militaires, par exemple.
Donc il faut noter donc, que la Grèce, finalement, elle a toujours entendu défendre le territoire qu'elle avait dû reconquérir après s'être émancipée de l'Empire ottoman.
Exactement. Okay.
Mais finalement, il y a déjà eu des conflits, en fait, entre ces deux États.
Et oui, les conflits territoriaux ont déjà eu lieu entre ces deux pays. Déjà en 1974, c'était l'île de Chypre qui était au centre des préoccupations. On s'en rappelle, Chypre se libère de la tutelle britannique en 1960, avec des gros problèmes posés par le mélange de deux communautés. Grecs d'un côté, turcs de l'autre. Mais en 1974, c'est le régime des colonels, donc un gouvernement nationaliste pro-grec, qui est mis en place à Chypre après un coup d'État. La Turquie, estimant que la communauté turque chypriote se trouve en danger, décide la même année d'envahir la partie nord de l'île chypriote. Et c'est à partir de 1983 que Chypre sera scindée en deux États distincts, la partie sud, d'abord reconnue par la communauté internationale, et la partie nord, reconnue par la Turquie.
D'ailleurs, justement, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le 18 octobre, la partie nord de Chypre a élu le candidat soutenu par la Turquie, qui est Ersin Tatar. D'accord. Ce qui relance un peu le questionnement d'une refonte de Chypre et d'une réunification.
Et puis, il faut savoir que la génération actuelle, qui vit à Chypre, que ce soit de la partie nord ou la partie sud, a presque toujours connu la division, de cette même île.
Effectivement, donc c'est un conflit qui perdure aussi là-bas.
Mais il faut savoir que Chypre, ce n'est pas le seul foyer de tension entre les deux pays. Les exemples de confrontations directes ou indirectes, ils sont multiples. En 1987, on avait fait face déjà à un conflit plus ou moins semblable, Sismic 1, un navire turc envoyé en mer Égée pour des recherches pétrolières, déplaît fortement au Premier ministre grec qui estime que la souveraineté des mers grecques a été violée. À ce moment-là, les deux pays se disent prêts à utiliser la force armée pour garantir leur souveraineté en Méditerranée orientale. On peut aussi, bien sûr, évoquer la crise d'Imia et Kardak en 1996, où les tensions étaient vives pour revendiquer la souveraineté de chaque pays sur cette petite île de 4 hectares. Aussi appelée la guerre des drapeaux, il faudra attendre la médiation des États-Unis pour calmer l'animosité entre les deux pays membres de l'OTAN. Même si on a beaucoup parlé des divergences entre les deux pays, certaines situations peuvent, elles, paraître communes. Premièrement, il faut savoir que les populations grecques et turques ont été durement touchées par les crises économiques. Du côté turc, on a une crise qui s'étend sur le long terme due à une mauvaise gestion du budget de la part du gouvernement turc, alors que pour les Grecs, c'est la crise économique de 2008 qui a eu des répercussions nombreuses, directes et violentes sur la population, notamment à cause de l'imposition de l'austérité par l'Union européenne et par le FMI. Mais il y a un mécanisme simple et systématique commun à tous les pays. Lorsque l'économie est au plus mal, les conflits de souveraineté reprennent du terrain sur la scène médiatique. Et parmi celles-ci, nous avons la question des îles en mer Égée. Et si on lit cette condition avec l'histoire que partagent les deux pays sur la question de l'appartenance à ces mêmes îles, on peut en partie comprendre pourquoi l'enjeu y est explosif. Et puis enfin et surtout, si on adopte un regard un peu critique, on se rend compte que les deux pays étant en crise économique, la conquête de la mer Égée remplie d'hydrocarbures est un enjeu considérable puisqu'il a la définition même d'une soupape économique. De manière plus générale, même si les tensions animent la Grèce et la Turquie, la réponse diplomatique, elle, viendra de l'Union européenne. La Grèce faisant partie de l'Union européenne, contrairement à la Turquie, il faut savoir qu'en cas de confrontation militaire directe, on aura une unité européenne qui se rangera derrière la cause grecque. C'est indéniable. Et puis enfin, il y a un élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la Grèce et la Turquie sont tous deux des pays membres de l'OTAN, et l'article 5 permet à un État membre agressé de recevoir une aide militaire de ses alliés dans le cadre de l'OTAN. Mais si un conflit éclate entre la Grèce et la Turquie, deux membres de l'OTAN, que se passe-t-il? Est-ce que l'organisation implosera? Est-ce que l'organisation se divisera? La question se pose. Mais de manière plus générale, même si ce conflit paraît local et d'actualité, il est en fait à portée globale et est parsemé de liens historiques particulièrement antagonistes.
Merci Ulysse, je pense qu'on comprend déjà un peu mieux l'origine du conflit entre la Grèce et la Turquie. Donc finalement, en fait, les conflits qui les opposent ne font que se renouveler aujourd'hui autour de problématiques assez similaires. Ces problématiques, elles vont s'illustrer autour de deux questions, telles que les hydrocarbures et de l'aspect migratoire qui prend une place importante aujourd'hui dans les relations entre ces États. Donc Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la situation ?
Oui, effectivement, les relations gréco-turques, elles sont conflictuelles, on l'a vu avec Ulysse sur plusieurs points. Leurs relations de voisinage ont toujours été compliquées, et je vais moi ici parler notamment de leurs relations sur le plan migratoire et sur le plan économique par le biais des hydrocarbures. Donc il faut savoir que la Grèce et la Turquie possèdent une frontière terrestre commune, qui est dessinée par le fleuve Héros, qui sépare les deux pays sur près de 212 km. Ces deux pays sont également séparés par la mer Égée, qui est une mer intérieure au bassin méditerranéen. Donc de par cette proximité entre les deux pays, la Grèce constitue la principale porte d'entrée des flux migratoires dans l'Union européenne, avec près de 75 000 arrivées en 2019. Ces flux migratoires représentent un véritable levier de puissance pour la Turquie envers l'Union européenne, et cette menace migratoire pour l'Europe a été remise à l'ordre du jour en mars 2020 avec l'annonce du président turc Erdogan de l'ouverture de ses frontières aux migrants. En 2016, il a été signé un pacte entre la Turquie et l'Union européenne dans un objectif de régulation de ces flux vers l'Europe. Et dans ce pacte, il est alors prévu une restriction de passage des migrants vers l'Union européenne en échange d'un soutien financier de 6 milliards d'euros à la Turquie.
Ah oui, quand même.
Quand même. Cet accord, par contre, n'a pas été totalement respecté par les deux parties puisque la totalité de cette aide n'a pas encore été versée. Et la Turquie a par la suite plusieurs fois ouvert ses frontières, entraînant de nouvelles vagues migratoires vers la Grèce. Donc pour contextualiser un peu, la Turquie, le Liban et la Jordanie sont les principaux territoires d'accueil des migrants. Depuis 2011, ces pays ont ouvert leurs frontières à près de 4,7 millions de réfugiés et cela représente un lourd fardeau économique pour eux. L'objectif de ces migrants, par contre, ne s'arrête pas sur ces territoires, ces premières terres d'accueil. L'objectif est bien de rejoindre l'Union européenne pour y demander l'asile, et cela par la route entre la Turquie et la Grèce. Les migrants se trouvent alors coincés entre deux camps. D'un côté, la Turquie qui les encourage à passer la frontière et surveille que les forces grecques ne les renvoient pas sur son territoire. Et de l'autre, les forces grecques qui tentent au mieux de les repousser, allant parfois même, on peut l'avoir vu dans l'actualité, jusqu'à utiliser des gaz lacrymogènes. Cet affrontement entre les deux pays entraîne un stationnement des migrants à la frontière gréco-turque, où des camps se forment dans l'attente pour les migrants de pouvoir rejoindre l'Europe. Donc, trois îles sont principalement touchées par ces vagues migratoires. Ce sont les îles de Lesbos, de Chios et de Samos, qui se trouvent au nord-est de la mer Égée. La situation sur ces îles est très critique, puisqu'on peut y observer des camps de migrants surpeuplés et insalubres, où des milliers de migrants attendent de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce. La question est de savoir qui sont ces migrants. Donc ils sont de plusieurs nationalités, principalement syriens, afghans, somaliens ou pakistanais. Et la proportionnalité de ces nationalités dans les flux migratoires varie. En 2011, par exemple, la population la plus représentée parmi la totalité des personnes ayant réussi à passer la frontière turque était afghane avec 28%. A l'inverse, en 2015, les Syriens représentaient 66% de cette population totale. En 2016, la Turquie a compté pas moins de 3,7 millions de réfugiés syriens sur son territoire, ce qui n'est pas du tout négligeable.
On le comprend aussi, effectivement.
Cette forte présence de réfugiés syriens peut s'expliquer par différents phénomènes. D'abord, on peut observer un changement de parcours de cette population. Avant 2015, la population syrienne empruntait la route du Liban pour ensuite rejoindre l'Europe par l'Italie. Après 2015, par contre, la population syrienne va emprunter un chemin plus court en passant par la Turquie pour rejoindre l'Europe par la Grèce. Cette forte proportion de population syrienne au sein des migrants s'explique aussi par la recrudescence du conflit entre la Syrie et la Libye. On parle ici effectivement de réfugiés et non pas de migrants économiques, puisque ces populations fuient en réalité un État en guerre ou un régime répressif où ils ne peuvent pas vivre librement. Mais les conflits entre la Grèce et la Turquie ne résultent pas seulement des flux migratoires entre ces deux territoires. Les conflits portent également sur la revendication même de certains espaces au sein de la mer Égée. Cette volonté d'accaparement territorial de la Turquie sur les eaux grecques est encore plus forte depuis la découverte en 2011 de gisements de gaz naturel Aphrodite au large de Chypre. Découvrir un gisement représente alors une promesse pour le pays à qui il appartient, une promesse de devenir autonome énergétiquement et même d'exporter du gaz vers l'étranger. Donc cela, on peut le comprendre, représenterait un atout géopolitique et économique majeur pour l'État détenteur de ces gisements. Les gains potentiels de la découverte de ces hydrocarbures sont donc considérables. Se pose par contre un souci de partage des eaux territoriales entre la Grèce et la Turquie. Pour poser un peu le régime juridique, la définition des frontières maritimes est posée par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui a été signée en 1982. C'est dans cette convention qu'a été définie la zone économique exclusive qui représente la zone de 200 000 marins à partir de la frontière terrestre, zone dans laquelle le pays a le droit d'explorer et d'exploiter tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire la pêche et, ce qui nous intéresse ici, les réserves naturelles. Le souci ici, c'est que la Turquie n'a jamais signé cette convention. Elle n'est donc pas obligée d'en appliquer les règles qui en découlent. Ce découpage des eaux territoriales des deux pays pose donc problème dans la légitimité d'action et de recherche dans la mer Égée par la Turquie. On l'a dit au début, la Grèce possède un atout majeur en mer Égée, c'est l'île de Kastellorizo. Cette île, elle est située à 2 km de la frontière turque et à près de 600 km des côtes grecques. Elle permet donc à la Grèce d'étendre sa zone économique exclusive quasiment jusqu'aux côtes turques. Le président turc Erdogan, lui, ne voit pas du tout, on peut l'imaginer, d'un bon œil cette extension et dit faire preuve de bon sens en estimant que la zone économique exclusive de la Grèce ne devrait même pas s'étendre jusqu'à cette île tellement elle se trouve loin du territoire grec. Il a également assuré que, je cite, « la Turquie, en Méditerranée, obtiendra ce qui lui revient ». Erdogan a d'ailleurs négocié ses zones avec la Libye pendant un accord sur les zones économiques exclusives des deux pays, alors même qu'elles ne lui appartiennent pas aux yeux des Nations Unies et aux yeux de la Convention de Montego Bay.
D'ailleurs, juste un petit point sur la Libye. C'est vrai qu'il y a un accord qui a été conclu entre Erdogan et le gouvernement libyen, sauf qu'il y a une condition qui peut poser un peu problème, c'est que la Libye elle-même est divisée avec une multitude de gouvernements, et du coup, Erdogan a signé un accord avec un seul gouvernement libyen. Donc voilà, ça rajoute un peu de complexité encore.
Exactement.
Comme si on n'avait pas assez déjà. Ouais,
Donc en faisant abstraction de ce principe de zone économique exclusive, la Turquie convoite une immense zone économique où se trouvent des îles grecques et elle conteste le découpage des eaux territoriales. L'enjeu pour la Turquie est ici immense. Effectivement, Erdogan est confronté dans son pays à une grande crise économique et il compte sur la découverte de gisements d'hydrocarbures dans la mer Égée pour renforcer sa légitimité et sa popularité. Et ses ambitions ne s'arrêtent pas là puisqu'il compte redonner à la Turquie une allure de puissance, non pas seulement sur le plan territorial, mais aussi sur le plan économique. Le président turc souhaite s'illustrer sur le plan international et étendre son influence au-delà des frontières turques. Il a même l'ambition de s'illustrer comme première puissance en Méditerranée orientale, ce qui n'est pas rien. Cette menace turque sur les eaux grecques s'est concrétisée en juillet 2020 avec l'annonce de la Turquie de son intention de procéder à des analyses sismiques au sud et à l'est de l'île de Kastellorizo. La Turquie a alors envoyé en eaux grecques des navires de recherche d'hydrocarbures qui ont été escortés par des navires de guerre et cela a enclenché une nouvelle escale des tensions entre les deux États. Le climat de tension est en effet grandissant puisque les autorités grecques ont placé leurs forces armées en état d'alerte en déployant sur place des éléments de la marine nationale et de l'armée de l'air. La Turquie s'était engagée par la suite à reprendre le dialogue sur le sujet avec la Grèce, mais cela ne l'a pas empêché d'annoncer le 11 octobre dernier le retour de son navire d'exploration dans les eaux grecques.
Donc on reste encore sur une situation incertaine finalement.
Exactement.
Puis c'est vrai, c'est clair qu'on entend beaucoup parler des hydrocarbures sur cette histoire depuis qu'elle a commencé, mais t'as apporté l'élément qui montre qu'il y a un réel enjeu humain là-dedans en fait, un réel enjeu migratoire où il y a des milliers et des millions de personnes qui chaque année bougent et dont la vie, la situation est menacée et elles sont juste prises entre deux feux au milieu de ce conflit. Et je trouve que c'est un peu les conséquences ou un peu les ouais. égarés de ce
les
conflit.
Conséquences humaines
c'est ça.
Des
Exactement.
Volontés économiques.
Ouais, c'est ça, puis ils sont un peu laissés pour compte. Mais justement, d'ailleurs, il y a quelques jours a débuté en Grèce la construction en fait, d'une clôture qui va faire près de 27 km pour en fait, repousser finalement les migrants qui viennent de la Turquie.
D'accord, et pour les renvoyer du coup à la mer, j'imagine.
Voilà, c'est,
ça semble être une bonne solution.
Voilà, de toute évidence. Voilà, si personne n'en veut, autant les laisser au milieu. Quoi.
Voilà. Bon.
Non, on ne peut pas dire ça, on ne cautionne pas ça. Mais du coup, forcément, tu soulignes effectivement, en fait, le problème, c'est que, il y a effectivement cette question économique d'un côté, mais il va y avoir effectivement cette question particulièrement migratoire. Et sur ce point-là, par exemple, ça touche énormément à d'autres États, en fait, finalement, que la Grèce et la Turquie, puisque ces migrants, ils ne visent pas spécialement à rester sur place. Voilà, et ils visent justement à venir de manière générale, par exemple, en Europe.
C'est l'Union européenne, ouais, c'est l'Europe qui est visée.
Voilà.
Qui est l'objectif.
Voilà. Et du coup, de ce fait, on comprend aussi que les autres États ont aussi, en fait, leur mot à dire d'une certaine manière sur ce qui se passe, en fait, entre la Turquie et la Grèce.
Sachant que le conflit syrien est lui-même entretenu par les puissances occidentales. Donc, c'est pas sans lien non plus. Oui. Le départ des migrants n'est pas non plus sans lien avec les actions étrangères des pays occidentaux.
Finalement, dans un sens, ils assument aussi une partie de leurs conséquences, même si je suis pas certaine qu'ils l'assument. Mais...
Ah non, mais ils l'assument pas du tout. Ils devraient, c'est ça justement.
C'est l'idée. Alors du coup, justement, on commence à spoiler un petit peu Rodrigo là.
Rodrigo,
explique-nous tout.
Donc, il faut rappeler tout d'abord que les querelles entre les nations turques et grecques elles sont très ancrées dans l'esprit de ces deux nations, du coup, puisque la Grèce a fait partie de l'Empire ottoman pendant plus de 4 siècles. Donc c'est une domination qui a été mal vécue par l'esprit nationaliste libertaire grec. Par contre, les animosités entre ces deux espaces géographiques, elles sont plus anciennes que ça. Par contre, je dis bien espace géographique, parce que les Perses n'étaient pas des Turcs. Les Séleucides, ils sont arrivés 14 siècles après, donc ils n'ont aucun rapport entre ces deux peuples. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut remonter jusqu'aux guerres médiques qui opposent la coalition des cités grecques contre l'envahisseur perse. Donc si on revient à une époque plus moderne, du coup fin 19e, début 20e, deux guerres se sont déroulées entre la Grèce et la Turquie. Donc bah, il y a eu de nombreuses tensions, mais des guerres à proprement dire, il y en a eu en 1897. Donc c'était pour décider l'appartenance de la Crète à l'un des deux États belligérants. Et cette guerre, elle a été gagnée par les Grecs. Et il y a eu ensuite une guerre qui a duré de 1919 jusqu'en 1922, qui était du coup pour annexer des territoires appartenant à la Turquie, mais des territoires qui étaient essentiellement compris par des Hellènes par des hellénophones. Donc c'était des Grecs, hein, des Grecs ethniques qui ont habité dans ces territoires-là pendant plusieurs siècles, mais bon, c'était des Grecs avant d'être des Turcs.
Donc c'était une façon de récupérer en fait un territoire qu'ils considéraient être le leur en fait.
Ah oui,
finalement,
mais,
c'est ça.
Mais en fait, ils voulaient récupérer ces territoires-là pour le royaume grec,
oui.
Mais du coup, ça débouchait dans la défaite des armées de Constantin Ier, et c'était la victoire des armées kémalistes, donc menées par Mustafa Kemal.
Oui, d'ailleurs, on rappelle que le kémalisme, effectivement, c'est un mouvement en fait qui vise justement à séparer en fait l'État turc de son ancêtre, qui est l'Empire ottoman. Et effectivement, comme vous vous en doutez, il tient effectivement son nom de son fondateur, qui est du coup le premier président turc.
Donc on peut déjà trouver dans le conflit gréco-turc de 1219 la volonté des puissances occidentales à s'immiscer dans la question de la répartition territoriale en Méditerranée orientale, donc l'Empire de la Sublime Porte, donc c'était le nom donné à la porte d'entrée du bâtiment du grand vizir à Constantinople, et par métonymie c'était l'Empire ottoman dans son ensemble. Cet empire-là, il était en pleine agonie à la fin de la Première Guerre mondiale, et il était déjà en train de se faire désamorcer avant même la fin des hostilités. On trouvait une crainte de colonisation de la Turquie par les puissances européennes chez certains Turcs. Parmi ces Turcs-là, on retrouve Mustafa Kemal, mais en soi, il n'avait pas si tort que ça, parce que finalement, les Britanniques et les Français, ils avaient déjà installé des protectorats tout au long des anciens territoires ottomans. Donc les territoires que moi j'aime bien citer, c'est Syrie et Palestine, parce que maintenant on les retrouve aussi dans des conflits. C'est des endroits bouillants. Oui, c'est des territoires bouillants de la planète. Ce qui était assez contradictoire de la part de l'entente, du coup, c'était que au long de la Première Guerre mondiale, des promesses, elles ont été pour maintenir l'Italie dans leur alliance. Donc cette dernière, elle voulait avoir une zone d'influence sur les territoires turcs d'Anatolie, mais c'est des territoires sur lesquels la Grèce, elle avait déjà une volonté d'annexion. C'est à peu près vers cette époque-là qu'on retrouve une volonté de panhellénisme, donc qui serait réincorporer Constantinople, les côtes anatoliennes et le Pontus au royaume de Grèce, mais que du coup ça ne réussit pas à porter des fruits, puisque les troupes grecques elles ont été défaites entre 1921 et 1922. Actuellement, la Grèce et la Turquie ont vécu d'autres épisodes qui ont laissé présager une guerre entre les deux camps. La division de Chypre en 1974, qui est traitée par Ulysse au début de la chronique, les crises en 1976 et 1987 autour du contrôle de la mer Égée, les nombreuses crises migratoires et actuellement les conflits pour une expansion maritime turque. Comme on le sait déjà, la Grèce devient membre de l'UE en 1981 et était déjà un membre de l'OTAN. La Turquie, qui devient candidat officiel pour adhérer à l'Union européenne en 1999 lors du Conseil européen d'Helsinki, et membre intégrant de l'OTAN également.
Alors, c'était pas en 87, la demande d'intégration ?
En fait, ils ont posé une demande, mais leur candidature, elle n'a été acceptée que de manière officielle à partir de 1999.
D'accord.
Donc, il y a eu un délai de 12 ans à peu près.
Ok.
Donc, du coup, on passe d'un siècle du 20e où ce sont des puissances européennes qui essayent de garder un calme relatif sur la Méditerranée orientale et l'Égée. On peut penser à la présence franco-italo-britannique pendant la guerre gréco-turque. On passe du 20e au 21e, donc, où ce sont essentiellement des entités supranationales qui essayent de régler les conflits entre ces deux États. Et dans ce cas-ci, c'est l'Union européenne et l'OTAN. Couple franco-allemand également, qui intervient de manière fréquente, ou qui du moins essaye de créer des sanctions envers les belligérants. L'intervention de la Turquie dans les conflits syriens et libyens, et plus récemment dans le Haut-Karabakh, témoigne de la volonté expansionniste d'Erdogan de recréer une puissance ottomane et islamique en Méditerranée. Et ce faisant, il crée des tensions avec ses voisins ainsi qu'avec les autres puissances qui ont des intérêts dans ces zones. La renaissance du conflit gréco-turc est liée au collapse de l'hégémonie américaine. Ce conflit a été accéléré par la crise liée à l'épidémie du Covid et la remise en cause de l'existence de l'OTAN, organisme qui régule à peu près les conflits entre membres dans cette région, par les États-Unis. Donc on se rappelle en 2018 et 2019, la remise en cause par Trump de l'OTAN, qui crée des fractures entre des alliés historiques, donc les États-Unis et l'Europe occidentale, et on pourra même citer là-dedans la Turquie. Donc la renaissance du conflit gréco-turc est également un fruit direct des guerres sanglantes menées par l'OTAN en Syrie et en Libye à partir de 2011. Donc la ruée vers les profits et l'avantage stratégique qui en résulte déchire l'OTAN et cette région, bah, comme on peut trouver actuellement en Syrie et en Libye des groupes armés qui se battent pour contrôler le pouvoir. J'avais trouvé une autre citation qui provenait du Centre de Stratégie et Études Internationales, CSIS, donc c'est les sigles en anglais, qui décrit de la manière suivante la myriade de conflits autour de réserves en hydrocarbures de la Méditerranée orientale. Les réserves de gaz et pétrole de la Méditerranée orientale sont au cœur d'une des régions les plus complexes géopolitiquement parlant dans le monde. La guerre civile syrienne a injecté une nouvelle source d'incertitude économique et géopolitique, et à l'arrière-plan se trouve la Russie, qui cherche à percevoir des gains dans l'exploitation de la manne énergétique de la Méditerranée orientale et à maintenir sa position de principal fournisseur de pétrole et de gaz pour les marchés européens. Le débâcle des guerres du Moyen-Orient menées par l'Amérique au cours des 30 dernières années, depuis la dissolution de l'Union soviétique en 1991, a éliminé le principal contrepoids militaro-politique à l'OTAN. Donc c'était le pacte de Varsovie. La politique de la France à l'encontre de la Turquie reflète la volonté souvent déclarée des puissances de l'Union européenne de formuler une politique étrangère indépendante à celle de Washington. Cela implique une affirmation des intérêts impérialistes européens contre Washington, qui a imposé des tarifs de guerre commerciales et des sanctions sur le commerce avec l'Iran visant l'Europe. Washington prépare également des nouvelles guerres, mais ils sont restés silencieux sur le conflit gréco-turc, notamment à cause des protestations sociales et les grèves qui sont déroulées à cause de la brutalité policière et à la mauvaise gestion de la pandémie là-bas. Également les tensions explosives liées à l'élection présidentielle. Mais on sait très bien que Washington surveille de très loin la politique de l'Union européenne en Méditerranée et planifie déjà des guerres. Hein. Voilà, c'est... Donc, après, déjà, il y a un souci avec l'Union européenne, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la même idée sur comment résoudre les problèmes entre Grecs et les Turcs. Donc, et les scinder sur comment répondre à cette crise. Donc, on trouve d'un côté la France, la Grèce et Chypre voulant répondre d'une manière assez dure pour la Turquie, et l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie qui veulent trouver une entente commune entre la Grèce et la Turquie. La France, elle s'allie à la Grèce et s'oppose également aux politiques d'Erdogan en Libye, puisque ce dernier...
Juste par rapport à ce que tu disais justement, aux États-Unis qui surveillent la politique étrangère de l'Union européenne, c'est parce qu'en effet, l'Union européenne essaie de prendre de plus en plus d'indépendance par rapport à la politique étrangère, et ce qui fait peur aux États-Unis, puisque les États-Unis, on se rappelle, hein, pendant la guerre froide, ils ont dominé les relations internationales qui étaient liées à l'Union européenne, mais sauf que depuis que l'Union européenne prend de plus en plus d'indépendance, ça fait peur aux États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis essayent de ramener l'Union européenne dans sa zone d'influence.
Mais c'est une des raisons pour lesquelles ils essayent de poser des sortes. Enfin, c'est pas des malus, mais ils essayent de freiner
la coopération européenne.
Oui, mais déjà, ils gèrent le blocus contre l'Iran. Mm. Ils vont imposer des mesures contraignantes si les marchés européens font du commerce avec l'Iran, en fait. Bah, comme l'avait dit Ulysse auparavant également, Erdogan il soutient le gouvernement libyen légitimé, mais du coup le nom de ce gouvernement c'est le gouvernement islamiste de l'accord national et qui est également soutenu par l'ONU, mais comme on le sait, hein, on n'aide pas quelqu'un par pure générosité, hein, enfin pure gentillesse. Il donne des armes en échange des droits d'exploitation de pétrole, et la France, bien que niant la présence d'une aide française au seigneur de guerre libyen Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, la France considère un affront la présence turque dans son ex-empire colonial africain, puisque celle-ci est perçue comme une menace aux intérêts français. La France, elle réagit donc en envoyant une frégate et des avions pour des manœuvres conjointes avec la marine grecque en Crète. Donc on peut voir que servir de médiateur dans ce conflit, c'est un peu difficile parce qu'on dépend des trois facteurs qui compliquent énormément la tâche. Donc déjà les fortes demandes territoriales de la Grèce, ouais. Puisque on a le droit de jusqu'à 6 km d'eau d'appartenance. C'est 6 km ou c'est 6 miles ?
6 miles.
Enfin des littoraux,
La mer territoriale ?
De la mer territoriale, exactement.
Il me semble que c'est 6 miles.
Ouais, c'est 6 miles. Ouais,
mais alors du coup justement ça dépend parce que tu vas avoir... En fait de manière générale on va dire c'est 6, mais en fait tu peux avoir des accords entre les États vis-à-vis justement de zones territoriales. Mais le souci justement en fait entre la Grèce et la Turquie, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre où s'arrêtent effectivement les frontières.
Vu que la Turquie n'a pas ratifié la convention Montego Bay, il n'y a pas d'accord entre les deux pays.
Exactement.
Ils n'ont pas l'air de vouloir d'un quelconque compromis. Hein. La Turquie, elle revendique ses droits, elle revendique un territoire, elle n'a pas l'air de vouloir faire de compromis, hein, à moitié-moitié, négocier éventuellement.
Quoi. Et la Grèce n'a pas envie de faire des compromis non plus.
Oui, ça, exactement, en fait, c'est ça. Elle a acquis suffisamment durement ces territoires qu'elle n'a pas envie de reprendre maintenant.
Exactement.
Et la Turquie espère toujours finalement récupérer les territoires qu'elle considère être finalement les siens en fait à l'origine. Mais donc effectivement, on comprend bien que c'est un conflit qui est compliqué et qui intègre effectivement de toute façon par la force des choses les autres États en fait à s'exprimer effectivement. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut espérer une réconciliation, que ça soit en fait entre ces deux États directement ou par le biais finalement d'une autre organisation? Qu'est-ce que tu en penses, Louis?
Justement, c'est ce qu'on se demande, hein, parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'enjeux, beaucoup de discussions. Voilà, la Grèce et la Turquie, elles ont des tendances historiques qui sont extrêmement belliqueuses, hein, on le constate aussi avec les tumultes de l'actualité. Hein, a priori, ou du moins, ça a l'air d'être voué à durer. La situation, elle est sous haute tension, et ça fait déjà un moment que ça dure, surtout avec le déploiement du bateau de forage, le Rus Race, là, avec sa flotte militarisée. Donc tout ça, ça complique encore les choses. Le bras de fer qui est semi-permanent entre la Grèce et la Turquie, il semble même tendre vers une certaine escalade militaire. De nombreuses prises de parole, un remue-ménage diplomatique très très fort, une partie des îles de la mer Égée qui ont été un peu plus militarisées par la Grèce, hein, comme si c'était pour se préparer hein, au final à un réel conflit militaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de différends juridictionnels, notamment quand la Turquie, on le disait tout à l'heure, ne reconnaît pas du tout hein, la taille de la zone économique exclusive grecque, les acteurs ne s'accordent pas sur le même respect du droit international. Donc il y a des différends aussi maritimes, hein, comme on l'a dit, des flottes militaires, les exploitations de gaz. Tout ça, ça entérine l'effritement, si je puis dire, des relations turco-grecques. Alors voilà, après tout ça, c'est sûr qu'on se demande, est-ce que c'est possible de se réconcilier? Est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'il y a une paix qui est envisageable, de manière durable hein, surtout? Parce que, de manière générale, on voit souvent des situations qui peuvent sembler graves en relations internationales, notamment à cause de la nécessité des États, de certains États, de protéger leur souveraineté territoriale, mais aussi parfois de chercher à l'étendre par la revendication de territoire. Tout à l'heure, on le disait justement, dans le cadre d'une crise économique, c'est le côté souveraineté territoriale que les pays vont chercher à défendre un petit peu plus. Tout ça, ça se lie à la poursuite d'objectifs économiques ou politiques divergents, comme on l'a vu. C'est le cas pour le déploiement du bateau de forage par la Turquie, qui va revendiquer une partie des zones d'appartenance grecques. Et il y a exactement le même genre d'enjeu, hein, au final, entre d'autres pays, pour la revendication de ZEE. Les tensions, par exemple, elles sont permanentes entre la Chine et le Japon pour le contrôle des îles Senkaku, qui sont situées à l'est de Taïwan, entre la Chine et le Japon. Donc voilà, la revendication de ZEE, c'est un sujet de discorde qui est plutôt récurrent, mais ça n'empêche pas, théoriquement, les pays de s'entendre, normalement. Alors voilà, plus historiquement, en dehors de la question de ZEE, il y a quand même, hein, pour parler un petit peu d'une potentielle réconciliation, des petits progrès hein, dans les relations entre la Turquie et la Grèce depuis les années 90. Par exemple, il y a, donc c'est totalement un autre sujet, mais à l'occasion de séismes successifs dans les deux pays, il y a eu de nombreux mouvements de solidarité entre les populations, de l'aide mutuelle clairement entre les deux pays. Hein. En 1999 déjà, il y a eu un séisme qui a été terrible hein, et qui a frappé le nord-ouest de la Turquie, qui a fait près de 23 000 blessés, 17 000 morts, donc c'est un bilan humain catastrophique. Et on a vu à cette époque que la Grèce avait envoyé des volontaires en Turquie qui lui rendra l'appareil à l'occasion d'un autre séisme quelques mois plus tard. Et en 2017 aussi, par exemple, plus récemment, il y a un séisme de magnitude 6,6 qui a provoqué 478 blessés. Et il trouvait son épicentre, celui-ci, en pleine mer Égée au sud de la Turquie. Et à nouveau, ben voilà, on a vu des petits actes de solidarité interétatique entre la Grèce et la Turquie.
Donc en fait finalement ce qu'on peut dire c'est que quand il s'agit pas d'assumer directement la faute en fait du problème, ils peuvent quand même interagir les uns entre les autres.
À croire que c'est seulement quand il y a des catastrophes naturelles que les gens peuvent s'entendre.
Voilà,
hein. Face à un même ennemi, on
finalement,
fait front.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Mais après on parle pas non plus voilà comme comme tu le dis, hein, de réelle réconciliation, loin de là. Mais ça montre quand même qu'il y a un petit peu des échanges ou des entraides qui sont possibles entre les deux pays.
Ça reste un début.
Voilà, et puis on va voir, il y a quand même d'autres petits éléments qui montrent de la sympathie entre deux. En 2006, il y a un petit signe d'amélioration à ce niveau-là dans les relations. Là, on n'est pas sur un événement naturel, c'est clairement un impact humain, donc entre la Grèce et la Turquie. Il y a eu un crash de deux avions militaires, respectivement turc et grec, en pleine mer Égée, et c'est le pilote grec qui va trouver la mort. Diplomatiquement, ça peut sembler un peu compliqué, mais à l'époque, les pays avaient manifesté leur intention de maintenir leurs efforts et que cet événement n'affecterait pas leurs relations. Voilà, quelques années plus tard, même sur le plan international, la Grèce et la Turquie, elles vont assumer totalement d'améliorer leurs relations. Donc notamment sur le plan économique, même dès 2013, c'est le premier ministre grec Antonis Samaras qui va signer, c'est assez historique, avec Recep Tayyip Erdogan, 25 accords de coopération économique. Donc, ils concernent notamment l'immigration, l'agriculture, l'éducation et même un petit peu de transport. Donc, Erdogan, il affirmera à cette occasion, nous pouvons avoir des divergences de points de vue, mais nous souhaitons les surmonter par le dialogue. Un appel au dialogue qui sera maintes fois lancé. Et cette main tendue, elle sera faiblement attrapée par Ankara et Athènes, qui avaient annoncé au 22 septembre dernier, suite à la pression internationale, une, je cite, « entente sur une reprise prochaine des pourparlers exploratoires pour résoudre leurs différends maritimes ». Donc en gros, les deux pays prévoient de reprendre leurs discussions qui ont été interrompues en partie en 2016 et qui portent sur justement le périmètre des eaux territoriales en mer Égée, les espaces aériens et bien sûr la délimitation des ZEE. Par contre, ce dialogue, il semble maintenant bien loin, parce que c'était possible en septembre dernier d'espérer un retour au calme, d'autant plus que la Turquie avait renvoyé son navire de forage sur ses côtes. Mais cet espoir s'est rapidement éteint en raison du retour annoncé du 12 au 20 octobre de ce navire en Méditerranée orientale pour de nouveaux forages. Voilà, donc de plus, même s'il y a eu une tentative de dialogue entre les deux pays qui avait été annoncée, il n'y a aucune date ou réel détail qui a été donné à ce jour. Et l'échange le plus concret gréco-turc qui s'est fait, ça a été fait en Slovaquie par la rencontre de leur ministre des Affaires étrangères. Donc ils se sont vus simplement en marge d'un forum pour la sécurité mondiale, mais aucune décision ou accord concret ne semble avoir été pris à cette occasion. De plus, le retour du navire de forage va à nouveau raviver les tensions. La Grèce ne prendra part à aucun des pourparlers tant que l'Horus Reis et ses navires d'escorte seront sur place, a affirmé le ministre grec, laissant de côté pour l'instant d'éventuelles discussions. Bon, ensuite, l'adhésion à l'OTAN de la Grèce et la Turquie en 1952, elle s'était faite dans le but de contribuer à pacifier leurs relations d'un certain côté. Dès lors, on comprend que l'OTAN comptait parmi ses membres deux nouveaux États qui officiellement sont alliés, mais pour qui les tensions et les suspicions mutuelles ne s'étaient pas pour autant éloignées. On sait que ça a joué un rôle dans le maintien d'une paix relative entre les deux pays, mais ça n'a pas pour autant réussi à endiguer complètement le conflit. Alors finalement, l'accumulation de tous ces désaccords dans cette région du monde, elle donne lieu aujourd'hui à une forte fragilité diplomatique. Les problématiques, elles demeurent. Les forages ne sont pour l'instant pas totalement interrompus, leur prolongement étant annoncé jusqu'au 20 octobre. Le bateau, il se trouvait à cette date à moins de 5 miles nautiques des côtes grecques, donc ça constitue, pour le ministre grec des Affaires étrangères, une grave escalade. Alors même qu'Ankara s'était plutôt engagé à proposer une date pour des discussions exploratoires. Donc la zone, elle est aussi marquée, comme l'a rappelé Camille, par une crise migratoire forte, avec une partie de ces flux qui passent la Turquie et la Grèce afin d'entrer en Europe. Il y a des enjeux économiques réels, surtout en raison de l'immense quantité de gaz potentiel trouvé en mer Égée. C'est un élément qui est particulièrement important, comprenons-le, pour la Turquie, parce qu'elle dépend aujourd'hui majoritairement de la Russie pour l'obtention de son gaz naturel. Et de plus, tout ça, ça amène la possibilité d'un recours à la violence qui n'est pas à exclure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un décroissement des tensions, je pense, entre la Grèce et la Turquie. On peut plus parler de variations, éventuellement. Le conflit, il cesse d'évoluer, ses origines, elles sont extrêmement anciennes. C'est difficile d'imaginer que la mésentente cesse dans cette zone. Chacun des belligérants est motivé par des raisons qui lui sont propres, des intérêts divers, finances, souveraineté, et ils sont voués à changer, tout comme leurs dirigeants, hein, d'ailleurs. Et c'est peut-être même l'une des portes de sortie envisageables, espérer le remplacement des belligérants, l'un ou plus des deux belligérants aux prochaines élections, ce qui offrirait peut-être une nouvelle chance à la diplomatie dans cette zone.
Moi, j'ai aussi le sentiment que c'est compliqué d'avoir une paix pérenne entre les deux États, ouais. dans le sens où, où ils sont situés vraiment à un carrefour géographique oui. important, l'Europe d'un côté, l'Asie et le Moyen-Orient de l'autre, et le Moyen-Orient qui est une zone où il y a énormément de conflits, où c'est compliqué de s'entendre, et donc du coup, comme je l'évoquais, les flux de personnes, les flux de migrants dans cette zone-là vers l'Europe, j'ai le sentiment que ça va toujours créer une sorte de tension entre les deux États. Ouais. En fait, tant que les tensions au Moyen-Orient ne seront pas résolues, eh ben, il ne pourra pas y avoir d'accord
ouais, c'est durable ça, parce que de toute façon, comme le problème ne vient pas directement voilà. d'eux, en tout
des
cas.
États, non, c'est la zone. La zone
effectivement, pose problème, c'est ça.
Et puis surtout, l'élément qui est le plus important et qui est très souvent le nerf de la guerre, c'est les hydrocarbures en général.
Oui.
Et ça, forcément, c'est convoité par tellement de monde que ça peut créer que le conflit.
Oui, c'est sûr. Et puis comme effectivement, on reste sur une zone qui est vraiment un sujet de souveraineté, en fait. On a, la communauté internationale va avoir du mal à imposer quoi que ce soit, en fait, sur ce point-là. Et on le constate, parce que même s'il y a effectivement des espèces de pénalités qui peuvent être mises en place, finalement derrière on les suit pas tant que ça parce qu'il y a peut-être en fait trop d'enjeux finalement dans cette question.
Les gains potentiels sont tellement énormes que les pénalités sont pas forcément dissuasives.
Voilà, et pas forcément applicables en fait finalement quoi. Je vous remercie.
Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet.
Exactement, et puis on fera peut-être un petit point d'actu dans quelques semaines puisque le navire devait être retiré là il y a un ou deux jours. Et donc on attend effectivement la suite des événements pour en savoir un petit peu plus. Et moi je tiens à vous remercier tous les quatre.
Merci à toi, merci à vous tous.
Voilà, d'avoir participé à cette émission.